Philippe, 11 mai 83. Non, non, non.
Nous allons essayer de comprendre comment, ayant découvert la distinction de l'être en acte et de l'être en puissance, nous avons une nouvelle saisie du principe de finalité. Alors là, il s'agit d'entrer dans ce que représente ce principe de finalité, quelque chose de très important, parce que c'est sûrement ce qui est le plus difficile à redécouvrir au niveau philosophique. Le principe de finalité est enfoui depuis longtemps, officiellement. Il y en a toujours, évidemment, qui le reprennent. Mais je veux dire, officiellement, c'est enfoui depuis très longtemps. Alors je crois que tous, nous avons à le redécouvrir. Comprendre ce que c'est. Nous savons à peu près ce que c'est d'être finalisé dans sa vie. Mais c'est bien, c'est pas suffisant, vous voyez. Il faut le... Au point de vue de notre intelligence, nous saisissions exactement ce que c'est. Alors je vous disais, revenons toujours à la première expérience. C'est important de revenir à cette première expérience, parce que cette première expérience nous montre en même temps aussi le conditionnement dans lequel nous saisissons ce principe de finalité. Et c'est toujours le danger de faire que ce conditionnement devienne une détermination. La première expérience que nous avons du principe de finalité, c'est au niveau de l'activité artistique. Je dis l'expérience la plus claire, la plus précise, la plus nette. Parce qu'il peut très bien se faire que, de fait, la première expérience génétiquement ait été un amour à l'égard de notre mère. C'est possible, le petit enfant qui aime sa mère. En aimant sa mère, il découvre sa finalité. À travers le biberon, ou à travers le lait maternel, il découvre sa finalité. Et c'est vrai, parce que les psychologues diront « Ah, c'est le besoin de la source ». Non, non, ça c'est extérieur. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est peut-être aussi ce qui explique la difficulté du sevrage. Alors les psychologues l'expliquent à leur façon, mais peut-être aussi c'est la difficulté de dépasser le moyen lié à la fin et qui fait que on n'arrive pas à découvrir la fin proprement dite, et que quand le moyen disparaît, alors la fin disparaît. Et c'est important de saisir philosophiquement ce que les psychologues soulignent comme des faits. Pourquoi cette importance du sevrage? Au bout d'un certain temps, on dit, oui, quand même, vous revenez toujours là-dessus. Mais oui, il y a quelque chose d'important. C'est parce que on bloque facilement moyen et fin. Pourquoi Aristote, dans l'éthique, il ne parle pas du sevrage, mais c'est sous-jacent, et il serait d'accord, j'en suis sûr. Pourquoi Aristote, dans l'éthique, au début de son premier livre de l'éthique, montre-t-il ce bien qui est un moyen, et le bien qui est aimé pour lui-même? Un bien qui est aimé pour autre, et un bien qui est aimé pour lui-même. Un bien qui est aimé comme un moyen, et le bien qui est aimé comme une fin. Et pour lui, c'est une distinction fondamentale, ça. Alors cette distinction n'implique peut-être pas d'induction, ou est-ce qu'elle implique une induction? Alors, je prends tout de suite les deux points de départ. Hein. Premier point de départ, activité artistique, découvrir l'œuvre. L'activité du travail est ordonné à l'œuvre. Je dis bien ordonné, en vue de l'œuvre. L'œuvre est fin et l'œuvre est effet. Donc l'œuvre est à la fois un résultat et en même temps une fin. Et c'est ça que je crois est très important à comprendre. D'autre part, ce travail est ordonné vers l'œuvre grâce au projet. Ce projet, c'est la cause exemplaire. Et nous portons en nous cette cause exemplaire. Nous portons en nous cette idée-là qui nous oriente vers l'œuvre, qui nous oriente vers cette œuvre. Alors vous voyez bien que cette première expérience que nous avons de la cause finale, la première expérience radicale que nous avons, qu'il faut tout le temps revenir, hein, pour la purifier du reste, pour mieux la comprendre, à travers le travail et dans le travail, fait que, de fait, l'œuvre est en même temps un résultat, et que l'œuvre est dépendante de la cause exemplaire. Donc la cause finale est saisie, non pas du tout dans sa pureté, elle est saisie à travers le point de vue de l'effet, donc à travers la matière. Parce que l'effet, c'est lié à la matière. C'est pas la matière qui est la fin du travail, hein, mais c'est justement ce qui est transformé dans la matière. Donc, cette expérience de la cause finale, cette expérience de la finalité, est liée à la matière, est liée à la cause exemplaire. Alors c'est très curieux de voir que quand la cause finale disparaît, au fond, où on retombe dans une espèce de matière, ou la cause exemplaire. Tout de suite, c'est les deux grandes caricatures de la cause finale. C'est le point de vue de la cause matérielle qui l'emporte, ou la cause exemplaire. Parce que, de fait, ma première expérience, l'expérience congénitale que j'ai de la cause finale, de la finalité, est liée à la matière, liée à la cause exemplaire. C'est autre chose que la matière, puisque c'est ce qui transforme la matière, c'est la forme artistique, la forme artistique dans la matière. C'est ça l'œuvre. Et c'est cela qui finalise, c'est ça qui fin. Et cette fin, cette forme, elle provient de la cause exemplaire. Donc la cause exemplaire a une priorité sur l'œuvre. Ah, vous voyez cette chose curieuse, dans cette première expérience, la cause exemplaire mesure la fin. Ça demandera une purification assez grande, d'arriver à faire que la cause exemplaire soit mesurée par la fin. Parce que selon ma première expérience, il faut bien le voir, que la cause exemplaire est première et une mesure. Elle est mesure de l'œuvre. Et donc, elle est mesure de la fin. Il y a une situation très particulière de cette découverte de la finalité. Et ça, je crois que ça explique des quantités de choses. Quand on essaie de comprendre vraiment cela. Deuxièmement, la fin, elle est enfouie aussi dans la matière. Quelquefois, la matière prédomine. Hein. Quand vous accouchez d'un monstre, ça arrive. Premier essai. La matière est tellement forte que, vaguement, on voit ce que ça peut être. Hein. Mais la figura, elle est très très cachée, et la forme est très très cachée. La première icône que vous faites, hein, la matière, elle n'est pas entièrement donnée. Et alors là, ce que dit admirablement Plotin, c'est très vrai. C'est quand la matière l'emporte sur la fin, il n'y a pas de splendeur et de beauté. Il faut que la forme arrive à être victorieuse de la matière pour qu'il y ait beauté. Et c'est évident que quelquefois, dans l'œuvre, ça n'existe pas. Donc, il y a deux aspects, hein, qui mesurent d'une certaine manière la fin. Cause exemplaire, la matière. Le support antérieur à la fin, à partir de laquelle la fin va apparaître, c'est la matière. Et la cause exemplaire, ce qui dirige. Et la finalité apparaît à l'intérieur de ces deux colosses. La cause matérielle, la cause exemplaire. Ça, très très important. Donc, la fin est saisie dans un état, j'allais dire, très embryonnaire. Hein. C'est vraiment ma première saisie de la fin, mais c'est très embryonnaire. C'est pas du tout quelque chose de très, très, très lumineux. La causalité finale est empêtrée dans la matière, est empêtrée dans la cause exemplaire. La cause exemplaire est lumineuse, mais la cause finale est beaucoup moins lumineuse, là. Elle est empêtrée. Donc, ça fait quelque chose d'assez important à souligner. Deuxième expérience, au niveau éthique, au niveau amour. C'est vrai que c'est l'amour qui me fait découvrir le bien. Et l'amour n'est parfaitement lui-même que quand ce bien est fin. C'est-à-dire quand ce bien est considéré comme un absolu. Or, il faut distinguer le bien fin et le bien moyen. La distinction entre bien fin et le bien moyen est analogue à la distinction entre substance et qualité. Est analogue à la distinction entre matière et forme. Ce qui est la matière et la forme au niveau de la phusis. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se demander, est-ce que cette distinction entre bien moyen et bien fin se fait grâce à une induction? Vous le voyez dans l'éthique d'Aristote. Alors, est-ce que ça se fait grâce à une induction? C'est intéressant au point de vue critique, hein. Je ne vais pas m'attarder ici. Mais il faut se poser la question. Il faut se poser la question. Ordinairement, il faudra s'être questionné plusieurs fois pour arriver au dépassement de la fin moyen. Ou du bien moyen. Enfin, de la fin, peut-être, du bien moyen. Il faudra être questionné plusieurs fois pour comprendre qu'il y a quelque chose. Parce que, ordinairement, le bien moyen est immédiat. Tandis que le point de vue du bien fin n'est jamais immédiat. Il est quelque chose que je cherche. Un bien qui m'attire. Mais il m'est donné à travers. Et alors, je l'ai ici, tout à fait, l'enfant qui s'appelle sa mère. Hein. Premier amour. Premier amour spirituel. Donc, le premier moment où, d'une certaine manière, vous découvrez la finalité dans ce qu'elle a de tout à fait spirituel. Ce premier amour de l'enfant pour sa mère. Eh bien, il est lié, c'est bien évident, il est lié au biberon. Il est lié au bien moyen, le besoin le plus naturel qui soit. Il est lié à ça, ce n'est pas possible autrement. Au-delà de l'aliment, au-delà du besoin, il y aura une présence. C'est sûr. Mais cette présence, elle est liée à cet aliment, elle est liée à ce besoin. Par là, il y a un milieu qui se crée. Et c'est à travers ce milieu que je saisis cette présence. Et donc, il faut bien saisir que cette finalité saisie au niveau de ce premier amour reste lui aussi très lié au milieu, donc à l'aspect matériel, enveloppant. Le milieu est maternel. L'enfant qui aime sa mère, qui est porté par sa mère, c'est un milieu enveloppant. Et ce milieu enveloppant est quelque chose de matériel et maternel. C'est la cause matérielle, ça. Et puis, il est lié au besoin, il est lié à l'aliment. Il est lié donc aux moyens. Ce qui fait que la faim, dans toute sa pureté, la présence, elle est très liée à tout ce contexte. Et parce qu'elle est très liée à ce contexte, la finalité qui est saisie à ce moment-là est une finalité qui reste très embryonnaire. Alors, vous voyez, ce serait intéressant, alors simplement, quand je regarde ces deux expériences, notez, faites-le de vous-même, ça c'est facile à comprendre, faites vous-même le conditionnement dans lequel se donnent ces deux découvertes de la finalité. Conditionnement de la cause exemplaire, conditionnement de la matière, conditionnement du milieu, conditionnement des moyens. Vous avez deux aspects. Alors vous comprenez que c'est dans le conditionnement, alors, en plus l'aspect de l'efficacité, la conquête de la matière qui se fait par le travail, cause efficiente, la conquête du bien moyen, cause efficiente. Il a beaucoup crié le gosse. Alors on l'a écouté. Le cri, c'est pas du tout la cause, c'est pas du tout la cause finale. Le gosse, quand il crie, c'est sa manière pour lui de travailler. C'est sa manière pour lui de réveiller le contexte extérieur, le milieu dans lequel il est. C'est sa manière de conquérir l'aliment, le bien moyen qui lui est donné. C'est la seule manière qu'il a. Il ne peut pas la conquérir autrement. Mais réveiller ceux qui sont capables de lui donner et qui ont toujours l'air d'avoir tout leur temps et de dormir. N'est-ce pas? Et ça se prolonge, ces choses-là. C'est très curieux, comme un contexte. Hein? Alors, c'est le cri d'enfant qui, de fait, est lié à l'acquisition. C'est très curieux de voir combien la causalité efficiente est liée à la causalité finale. Combien elle est liée dans le conditionnement des deux. C'est par le cri, c'est par le travail que l'œuvre est donnée, et c'est par le cri que le bien moyen est donné. C'est pas par le cri que la présence est donnée, mais c'est le moyen qui est donné. Et le cri, c'est sa manière pour lui travailler. Donc vous voyez, hein, si j'étais réduit à cela pour essayer de comprendre ce que c'est que la cause finale, hein, c'est pas commode. Comme c'est enchevêtré dans ta cause. Comme c'est... Si je l'ai découvert avant, je peux le dire, mais autrement, comme c'est difficile. Et si je reste à ces expériences comme étant des expériences primordiales, j'arriverai très difficilement à découvrir l'absolu de la causalité finale. Cause des causes. J'aurai l'impression, pour le fâcheré, que c'est la cause exemplaire qui commande. Et pour l'autre, que c'est la cause efficiente. Parce que c'est par là que le bien m'est donné. Cause exemplaire, cause efficiente. Les deux me semblent plus immédiates et me semblent être la cause des causes. Donc ce qui commande la cause finale. La cause finale m'est donnée qu'à travers cela. Génétiquement, c'est vrai. Génétiquement, la causalité finale ne m'est pas donnée immédiatement. Et au fond, c'est toute la difficulté que nous avons à saisir la cause finale. Hein. C'est qu'elle n'est pas donnée immédiatement. La cause exemplaire m'est donnée immédiatement. Dès qu'on fabrique un petit peu quelque chose, on comprend très bien. Et la cause efficiente m'est donnée immédiatement aussi. Le cri de l'enfant et le travail, ça m'est donné immédiatement. J'ai une expérience immédiate de la cause efficiente, j'ai toujours une expérience immédiate de la finalité. Ce que je pourrais dire au niveau pratique. Nous pouvons dire ça. Au niveau pratique, c'est toujours médian. Alors, je pourrais pousser l'exemple de la coopération, au point de vue communautaire, par rapport au bien commun. Mais le bien commun ne me donne pas une expérience tellement claire de la causalité finale. C'est déjà tellement difficile de voir que c'est un bien et qu'il est commun. L'efficacité, lui aussi. Et ça ne me donne pas une expérience claire de la causalité finale. Je ne sais pas si c'est à l'égard de la communauté que vous avez le sens le plus exact de la causalité finale. Pas moi. Mais peut-être vous, c'est tant mieux. Mais au fond, normalement, ce n'est pas à l'égard de la communauté qu'on découvre la causalité finale. On découvre les rivalités. Oui. On découvre ce que représente le point de vue de la causalité efficiente. Ce qui frappe le plus fort, ceux qui crient le plus fort aussi, vous voyez les deux aspects, hein. Ceux qui ont le plus d'imagination, ceux qui brillent le plus, vous avez des exemplaires, tous les matins, des idées nouvelles. Alors à ce moment-là, vous avez des exemplaires, ceux-là, la causalité, le bien commun, pas commun. Très important, je crois, de comprendre qu'au niveau du pratique, la causalité finale est enfouie. Vous allez me dire, si je prends l'exemple majeur de l'éthique, de l'amour d'amitié. Quand je suis capable d'un amour d'amitié. Alors, quand je suis capable d'un amour d'amitié, est-ce que j'ai l'expérience immédiate de la fin? Et est-ce que la fin s'impose à moi directement ? C'est une nouvelle manière de regarder le point de vue de l'amitié. C'est intéressant parce que ici, je peux le dire, ça c'est très net, le milieu, l'aliment, ça c'est immédiat. Tandis que l'absolu de la personne, c'est immédiat. Mais si je prends l'exemple de l'amour d'amitié, chez un adulte, l'expérience que nous pouvons avoir de l'amour d'amitié, est-ce que dans l'expérience de l'amour d'amitié, vous avez l'expérience immédiate de la finalité ? Posez-vous lucidement la question. Ou est-ce que vous avez, là encore, l'expérience immédiate des qualités de séduction de l'ami ? Il m'a séduit par un de ses cheveux. Il m'a séduit par son regard. Il m'a séduit par sa présence. Séduction ! Puis, à travers ça, je découvre ce qu'est sa personne. Vous savez, quand on parle d'un de coup de foudre. Est-ce que le coup de foudre est une expérience immédiate de la finalité ? Ou est-ce que le coup de foudre est tout simplement une séduction prodigieuse, étonnante, qui révolutionne tout ? Parce que ça fait toujours ça. Ça révolutionne tout. Une expérience formidable, une qualité que je n'avais jamais vue. Extraordinairement lumineuse. J'ai rencontré un archange. C'est fulgurant. Dans une lumière étonnante, je suis pris. Vous voyez, au fond, c'est les qualités qui sont saisies immédiatement. Et par les qualités, je saisis la finalité. C'est intéressant de voir ça, parce que ça montre que de fait, c'est pas si commun que ça. La causalité finale, elle se cache toujours. Elle se cache toujours. Elle est toujours médiatisée. Et c'est au-delà de la séduction que je vais saisir le bien spirituel. Au fond, c'est la connaissance que vous avez de l'âme. Vous avez une connaissance de l'âme affective, de votre âme, et puis de celui que vous aimez. Oh, comme tu aimes belle âme. C'est merveilleux. Mais au fond, je mets du temps à saisir la personne dans ce qu'elle a de profond, son âme. Et je ne la saisis pas directement. Parce que la connaissance que j'ai de mon âme, intérieurement, je l'ai de l'autre. Je ne me place pas en lui pour voir la beauté de son âme. Genre. Donc c'est toujours médiat. Je crois qu'on peut le dire, la causalité finale se découvre toujours par l'intermédiaire d'autre chose. Ce qui explique les causes des causes, alors on dit ça comme ça, comme si ça allait de soi, ça ne va pas du tout de soi, il faut découvrir, dévoiler la causalité finale. Oui.
Une expérience religieuse.
L'expérience religieuse ne fait pas une expérience immédiate d'une personne, donc d'une fin. C'est encore moi. C'est pour ça que je ne peux pas commencer la philosophie par l'expérience religieuse. J'ai essayé de le faire à Paris, là, avec, au cours, à l'Institut Jean-Paul II, pour les charismatiques, pour le groupe Emmanuel. J'ai essayé de dire, on a fait quelques cours là-dessus, pouvons-nous commencer, et pour eux c'était nécessaire de le faire, pouvons-nous commencer une philosophie par l'expérience religieuse ? En analysant vraiment ce que l'expérience religieuse. Pouvons-nous découvrir la finalité par l'expérience religieuse ? Bien non. L'expérience religieuse, c'est mon émotion profonde, affective, vis-à-vis d'une présence cachée, que je ne saisis pas directement. Oui. Alors on en arrive à la position, du reste c'est très intéressant, en suivant l'écriture, est-ce que le désert est l'esprit ? Pourquoi le désert ? Et pourquoi, de fait, il y a dans l'écriture, cette espèce qui repousse la ville, la pylône repousse la ville et regarde le désert. Alors le désert, est-ce que le désert vous met en présence immédiate de Dieu ? Non. Le désert permet une purification, et donc il permettra de mieux comprendre. Il n'y a pas d'expérience immédiate. Vous allez me dire dans la mystique, oui, dans la mystique divine, surnaturelle, dans la foi, tout à fait d'accord. La foi me met en contact direct avec le bien divin. Alors, l'expérience mystique naturelle, est-ce qu'elle me met ? Alors, c'est une très grave question, très difficile.
Il y a toujours quand même une croissance dans la vie de
l'homme. Ah mais je suis dans la vie de l'homme, je suis d'accord, la vie de l'homme me met directement en contact avec Dieu, mais au point de vue philosophique. Je suis au point de vue philosophique ici.
Dans une vie de l'homme, il y a quand même un devenir. Il y a un devenir, je pense.
Oui, et ça, c'est dans l'abondance.
Et c'est ce qui nous fait toucher quand même que la finalité n'est pas immédiate.
Oui, elle est immédiate. Alors là, elle est immédiate. Chaque acte de charité me met immédiatement en contact avec Dieu. Substantiellement en contact avec Dieu. Mais je peux progresser. Mais c'est Dieu qui va venir. Il va venir de plus en plus en moi. Il y a une croissance dans l'amour. Alors Dieu est de plus en plus celui qui me finalise et m'attire. Mais l'attraction du Père est immédiate. Donc j'ai une expérience mystique de la finalité au niveau mystique. Je ne l'ai pas au niveau philosophique. Et c'est ça qui m'intéresse ici. Et c'est très intéressant, ben là, parce que c'est là où vous voyez tout de suite la différence entre une expérience mystique philosophique, dans quelle mesure Plotin a-t-il eu cette expérience, et puis l'expérience mystique. Je ne crois pas qu'on puisse dire, c'est ça, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'au niveau pratique, au niveau philosophique pratique, donc la philosophie du Fatscheré, la philosophie de l'amour d'amitié et la philosophie de la communauté, il puisse y avoir une expérience immédiate de l'infinité. Je ne crois pas. Il faut réfléchir là-dessus, c'est important, parce qu'ordinairement on ne pose pas la question comme ça. Il faut toujours, vous savez bien, c'est comme ça qu'on progresse en philosophie. C'est de se reposer des questions d'une autre manière que ce qu'on a posé habituellement. Parce qu'alors on est obligé à ce moment-là de réfléchir d'une nouvelle façon sur un problème qui nous semblait très classique, très très simple. La causalité finale, on en parle tout le temps. Alors quel est le lien que j'ai avec la causalité finale? Mais alors, tant pour le pas de chérir, je le vois bien, je touche l'heure. Oui, je touche l'heure. Mais à travers tout ce halo, l'amour dans l'amour spirituel, je touche bien la personne, oui, d'une certaine manière, mais à travers ce halo. Oui. Alors, il y a un contact immédiat, mais à travers le conditionnement. Et au fond, c'est ce conditionnement qui est premier immédiatement. Et qui me conditionne. Alors, la volonté peut aller plus loin, il y a une certaine expérience, mais à travers ce halo. Pas direct, dans le sens que je pourrais avoir une expérience, être en présence de la fin. Ce serait merveilleux. À ce moment-là, vous voyez, l'éthique rejoindrait la métaphysique. Et c'est ça le point de vue propre de l'éthique, c'est que l'éthique, il y a toujours ce halo, ce conditionnement, il y a toujours ce milieu dans lequel je suis dans l'ordre pratique. Et dans l'ordre pratique, c'est toujours à travers quelque chose de sensible que je découvre l'invisible. C'est toujours à travers ce visible. Alors, je peux me poser maintenant la question. Une fois que vous avez vu ça, c'est pour vous montrer que le problème est posé en philosophie pratique. C'est la causalité finale. La causalité finale, première expérience, l'heure. Deuxième expérience, la personne que j'aime. La personne que j'aime, l'ami. Je découvre comme ma fin. Je découvre comme ma fin. C'est la personne que j'aime que je découvre ma fin. Comme étant capable de me finaliser. Alors vous voyez que ces deux expériences qui sont médiatisées, qui impliquent tout un conditionnement, me mettent en présence de quelque chose de tout à fait particulier, puisque d'un côté, la fin est bien un au-delà, donc il y a quelque chose qui transcende, mais qui transcende par le point de vue de la matière, hein. Vous avez très curieux. C'est vrai, l'œuvre est quelque chose qui me transcende à cause de la matière. Puisque tout l'aspect de la forme, je le possède en moi. Donc c'est une transcendance matérielle, l'œuvre. C'est l'au-delà au point de vue matériel. C'est un au-delà matériel. C'est l'autre par le point de vue de la matière. Il a souvent besoin d'un plus petit que soi. Et la fin apparaît autre grâce à la matière. Tandis qu'au contraire, dans l'amour d'amitié, la personne est autre, c'est sûr, tout de suite autre, comme l'ami, et qui me transcende non plus seulement par la matière, mais qui me transcende en ce qu'elle est, en tant qu'elle est mon bien. C'est mon bien qui me transcende. Et c'est vrai que là, il y a quelque chose qui se transcende. Donc, des deux côtés, la fin apparaît comme quelque chose qui me dépasse, mais qui me dépasse d'un côté matériellement, et l'autre qui me dépasse par le point de vue du bien. Je peux maintenant essayer de réfléchir sur ce que nous avons vu au palier métaphysique. La découverte de la division de ce qui est en acte et en puissance, priorité d'être en acte. Mettre en acte, je le saisis immédiatement. Je le découvre immédiatement à travers une induction. Si c'est à travers une induction, il y a encore le conditionnement de tout le milieu, mais je le saisis quand même. Il y a encore le conditionnement de tout le milieu, mais je le saisis quand même. Du fait même que je le saisis, j'ai dépassé toutes les expériences antérieures pour découvrir l'être en acte, distinct de l'être en puissance. Divisé d'être en puissance, c'est distinct de l'être en puissance. L'être en acte et l'être en puissance divise ceci et ce qui est vu du point de vue de l'être. Et quand je saisis cet être en acte, je saisis la fin de ce qui est. Vous voyez bien que là, il y a une connaissance spéculative sur la fin qui est plus immédiate que toutes les connaissances pratiques. Mais, qui est plus immédiate dans le sens qu'elle est plus pure, hein, elle est plus affinée, elle me permet de saisir cela. Les connaissances pratiques sont toujours liées à ce conditionnement. Elles atteignent bien immédiatement le bien, elles atteignent bien immédiatement la fin, mais elles restent liées à tout ce conditionnement. C'est pas tellement, la connaissance pratique n'implique pas d'abstraction. Donc là, il y a une abstraction qui me permet de saisir avec beaucoup plus de finesse. C'est pour vous montrer que tant que je n'ai pas atteint l'être en acte, je ne saisis pas parfaitement la finalité. Je vis de la finalité par l'amour, j'en vis, mais cet amour me lie toujours à des quantités d'autres choses. Ça explique pourquoi, vous savez, si c'était du côté pratique que je disais la causalité finale, tout le monde accepterait. Ce serait très simple. Mais ceci va expliquer pourquoi, au fond, c'est si difficile pour nous de maintenir le principe de causalité finale dans toute sa pureté, parce que c'est lié à la métaphysique de l'être en acte et d'être en puissance. C'est lié à cela. Et là, j'ai un contact direct avec l'être en tant qu'il a en lui quelque chose d'absolu. En tant qu'il a quelque chose qui transcende, il dépasse. Transcende l'être en puissance. Il est au-delà de l'être en puissance. Donc il le transcende. Il est l'autre totalement, totalement autre, n'est-ce pas? Par rapport à l'être en puissance. L'être en puissance est dans ce qui est. Et donc ceci est, en tant qu'il implique une potentialité, est complètement dépassé par l'être en acte qui est Satan. Qui sont absolus. Bon. Une fois que j'ai ceci, je peux donc préciser que tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Et là, je saisis un principe immédiatement. Je saisis donc la cause finale immédiatement, pour elle-même. Et en saisissant la cause finale pour elle-même, je peux dire qu'elle est cause des causes. Parce qu'elle est ultime. Tandis que du côté pratique, je ne la saisis pas dans sa pureté. Et donc je ne peux pas dire qu'elle est cause des causes. Je crois que c'est la première chose qu'on doit découvrir en métaphysique. Donc la métaphysique, si vous voulez, de ce que représente cette affirmation habituelle qu'on dit constamment, en disant c'est d'Aristote, c'est de saint Thomas, la cause finale est cause des causes. Alors, on ne comprend que lorsqu'on découvre l'être en acte. Parce que je comprends qu'à ce moment-là, ce qui est en puissance, tout ce qui est en puissance, tout ce qui n'est pas en acte, est totalement dépendant d'être enfant, totalement dépendant d'être enfant. Je découvre à ce moment-là comment la causalité efficiente elle-même est totalement dépendante de la du point de vue de la fin. Elle conditionne, mais elle reste dépendante. C'est-à-dire qu'elle est actuée par le point de vue de la fin. Bon, première chose que nous devons constater, que ce n'est qu'au niveau métaphysique que je peux atteindre dans toute sa pureté l'être en acte et que je me sépare de l'être en puissance. Et je peux dire donc que tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Et je peux dire que tout le conditionnement des êtres provient de l'être en puissance. Et donc ce n'est pas étonnant qu'au point de vue pratique, je n'arrive jamais à saisir l'être en acte, la fin dans toute sa pureté, parce que dans l'ordre pratique, la potentialité est toujours présente, toutes les réalités que je vois sont complexes, donc la potentialité est présente et donc il y a un conditionnement qui m'empêche de le saisir dans toute sa pureté. Bon. Une fois que je saisis ça, je peux immédiatement comprendre les diverses modalités du principe de causalité finale. Puisque nous avons vu qu'il y a 5 modalités de l'être en acte, ces 5 modalités vont me permettre de préciser les 5 modalités du principe de causalité finale. Toutes commandées par celui-là, tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Alors vous pouvez dire, en premier lieu, c'est facile, une fois qu'on a compris ça, on peut immédiatement décliner le reste. Hein. Mais c'est important de l'expliciter, parce que je crois qu'on n'a pas explicité assez. Qu'on n'a pas explicité assez, qu'on n'a pas compris l'importance de la distinction d'être en acte et d'être en puissance qui commande. Nous l'avons vu, ça renouvelle toute la philosophie, une fois qu'on a compris ça. Alors je peux dire, tout être possible dépend de l'être nécessaire. Tout être possible dépend de l'être en acte. Toute possibilité, mais j'aime mieux dire tout être possible. C'est-à-dire tout être en puissance. Mais là, je reprends. Tout être possible, tout. Alors, vous pourriez mettre l'essence égale tout être possible dépend de l'essence. L'essence est toute relative à l'essai. C'est une autre manière de le dire. Ça revient au même. Et ça revient au même de le dire, tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Il faut bien saisir ça, parce que c'est une modalité. C'est une modalité, c'est la même réalité. C'est la même réalité de dire tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte, que dire tout être possible dépend de l'être nécessaire, en acte, et de dire l'essence dépend de l'essai. Et c'est une manière de présenter le principe de causalité finale. Vous allez me dire, mais c'est très curieux ça, puisqu'au fond, elle est toujours transcendante. Oui, elle est toujours transcendante. Et c'est vrai que l'essai est transcendant par rapport à l'essence. Et que le point de vue du nécessaire est transcendant par rapport au possible. transcendant dans le sens que l'essence n'explique pas le nécessaire, n'explique pas l'être en acte, l'essence. C'est dans ce sens qu'il transcende. Deuxièmement, tout amour est ordonné au bien. Tout amour dépend du bien. Tout amour est dépendant du bien. L'amour est pris là, justement, comme ce qui provient du bien et ce qui est ordonné au bien. Tout amour dépend du bien. Ça, ça va très loin. Tout appétit. Tout appétit est ordonné au bien. Alors, il y a aussi toute volonté. Elle peut s'exprimer de diverses façons. C'est normal. Le point de vue de l'acte s'exprime toujours dans l'unité, et ce qui est en puissance s'exprime selon diverses modalités. Il y a diverses manières d'être en puissance. Donc c'est tout à fait normal que du côté de la potentialité, on puisse prendre différent. Mais tout appétit, tout amour, toute volonté est ordonnée. Vous pouvez ensuite dire, troisièmement, tout jugement. Ordonné à la vérité, au vrai. Dépend du vrai. Tout acte d'intelligence dépend du vrai. Toute vérité formelle dépend du vrai. Logique. C'est une autre manière de décliner. Mais c'est pour montrer le point de vue. Ça, c'est très intéressant pour expliquer toute la grande vision du père Rousselot et du père Maréchal. Ils sont partis de là, pas l'oublier. De voir qu'il y a dans l'intelligence humaine un appétit vers le vrai. Et toute intelligence est faite pour le vrai. On est ordonné l'intelligence dans la mesure même où l'intelligence, elle est ordonnée vers le vrai. Elle est pour le vrai. Quatrièmement, toute opération vitale toute puissance vitale est ordonnée à son opération vitale. La vie, toute faculté de voir est ordonnée à la vision. Toute faculté de voir est ordonnée à la vision, ça vous pouvez le dire. C'est une autre manière de dire. Toute puissance vitale est ordonnée à son opération vitale. Et on peut illustrer ça en voyant tout simplement que toute faculté de voir est ordonnée à la vision. Je suis fait pour voir. Et enfin, dernier aspect, vous devez dire tout corps est ordonné au mouvement. Pour la philosophie du corps, c'est très important. Tout corps est ordonné au mouvement. Tout corps est ordonné à la gymnastique. Vous voyez, tout corps est ordonné au mouvement. C'est que la gymnastique actue notre corps. Et c'est vrai que ça actue. Donc ça le rend plus souple, ça le rend plus corps. Au sens qualitatif. Alors vous avez donc les cinq modalités du principe de causalité finale.